Justement, je vous invite à prendre le recueil des cantiques qui est entre vos mains, le recueil des cantiques qui est à l'intérieur de vos Bibles, le livre des psaumes. Cet été, nous allons explorer ensemble ce livre et plusieurs frères, on va partager le pupitre avec plusieurs d'entre vous pour exposer et partager différentes psaumes. Mais mon but ce matin, c'est de vous donner une appréciation du livre du psaume dans sa globalité. Et je sais que déjà vous aimez le livre des psaumes. D'après une application mobile, c'est encore aujourd'hui le livre de la Bible le plus lu, le plus sollicité sur Internet. C'est le livre qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. C'est le livre de la Bible qui est le plus cité par Jésus lui-même. Donc déjà, on a des bonnes raisons d'aimer les psaumes. Et ce qui est surtout formidable avec les psaumes, c'est que nous avons les cantiques, c'est un recueil de cantiques et de prières inspirées par Dieu lui-même. Bien sûr, il y a des auteurs humains comme David qui en a écrit à peu près la moitié, et puis d'autres auteurs humains, mais nous qui croyons que la Bible c'est la parole de Dieu, que c'est inspiré par le Saint-Esprit, nous savons que c'est ce livre des psaumes, chaque cantique, chaque prière est écrit par Dieu lui-même. Et ça, c'est formidable. On peut chanter des cantiques à Dieu qui sont écrits par Dieu lui-même. On peut prier des prières à Dieu qui sont écrites, pensées par Dieu lui-même. Et là, on ne peut pas se tromper. Là, on sait qu'on prie les bons mots, on chante les bonnes paroles, puisque c'est Dieu lui-même qui nous les a données. Et c'est ça qui merveille avec les psaumes. Et nous voulons encore aimer ce livre cet été et s'y plonger dedans. Alors pour ce survol, j'aimerais m'appuyer sur un psaume en particulier, même si on va essayer de comprendre l'ensemble du livre, mais c'est le psaume 9 que nous allons lire ensemble. Et à la fin, nous aurons l'occasion de le chanter ensemble. C'est un des premiers cantiques que j'ai appris en français, c'est le psaume 9, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». C'est peut-être un peu moins, mais c'est un cantique, un psaume que l'Église française chante beaucoup, en tout cas. Mais souvent, nous nous arrêtons juste à la première strophe, alors qu'il y a 15 strophes, normalement, dans la Bible. Et on va lire tous les 15 strophes. Et il faut savoir que dans la Bible, dans l'original, le 9 et le 10 vont ensemble. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis un 10, mais ça fait partie du même psaume. Alors, nous allons lire le psaume 9. Et à partir du verset 17, les paroles vont être affichées. Nous allons lire en poésie française, d'après le psautier qui était traduit en français. Mais c'est pour nous rappeler que les psaumes, c'est des poèmes aussi. Et on ne veut pas oublier la richesse des paroles, souvent qui est perdue dans la traduction littérale, mais que d'autres ont essayé de retrouver en vers, en poésie française. Donc lisons ensemble le psaume 9. Et puis à partir du verset 17, vous pouvez soit suivre sur l'écran ou comparer avec vos Bibles la poésie française. Psaume 9. C'était au chef des chantres, c'est sur « Meurs pour le Fils », et c'est un psaume de David. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge, tu châties les nations. » Tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples les hauts faits. Car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. Ainsi, le monarque éternel, par un jugement solennel, leur a fait porter le dommage que m'avait préparé leur rage. on verra toujours le méchant trembler, ne marcher qu'en branchant. Ceux de qui Dieu n'a nulle crainte verront enfin leur race éteinte. Mais le fidèle humilié de Dieu n'est jamais oublié. Jamais du juste dans sa peine, l'espérance ne sera vaine. Empêche, ô mon Dieu, mon support, que l'homme ne soit plus fort. Cite-les tous en ta présence et prononce-leur leur sentence. Qui tremble et que ton pouvoir à tous les mortels fasse voir que de quelque nom qu'on le nomme, le plus grand d'entre eux n'est qu'un homme. Voilà le psaume 9 et on garde les strophes de la partie 10 pour tout à l'heure. Alors, comment est-ce que le livre des psaumes peut aider nous, l'Église et le chrétien aujourd'hui? J'aimerais voir ce matin que c'est un modèle de hymnologie. Les cantiques et les hymnes de l'Église, les psaumes fournissent à nous, à l'Église de Jésus-Christ, un modèle d'hymnologie. Ensuite, c'est un manuel de psychologie pour l'individu. Et enfin, on va voir que ce sont les mots et les prières du Messie. Donc, les psaumes, c'est un modèle de hymnologie, c'est un manuel de psychologie et c'est les mots du Messie. Voyons tout d'abord que les psaumes, Dieu nous a donné les psaumes comme modèle de hymnologie pour nous inspirer dans nos chants. Le fait que le livre le plus long de la Bible est un recueil de cantiques montre que Dieu veut que son peuple chante et prie et que ça fasse partie de leur vie spirituelle, leur vie chrétienne, leur vie d'église. Comme dit un chanteur français connu, nous, le peuple chrétien, nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple qui chante. Nous sommes un peuple qui prie. Merci Pierre Lachat pour ce cantique que nous chantons souvent. Mais en effet, le peuple chrétien, peut-être à la différence d'autres religions, si vous regardez, nous sommes vraiment un peuple qui chante, un peuple qui prie. Et si c'est le cas, c'est grandement l'influence des psaumes dans la Bible qui a déjà marqué l'histoire d'Israël et qui continue à marquer l'histoire de l'Église. Et nous retrouvons dans le Nouveau Testament cet appel à l'Église, la communauté chrétienne, de s'entretenir par des psaumes, des cantiques et des hymnes spirituels. Et par ce verset, je comprends qu'on chante des psaumes, et puis les psaumes devraient nous inspirer dans d'autres cantiques, d'autres hymnes, pour louer Dieu et pour s'exhorter, s'entretenir. Alors, comment les psaumes peuvent nous aider, nous, à chanter, à mieux chanter en tant qu'Église? Ben, commençons un peu avec le côté musical. Vous avez remarqué, comme dans le psaume 9, un certain nombre de psaumes commencent avec des indications musicales. C'est parfois un peu difficile à traduire, parce que ça vient d'une autre époque, mais nous avons par exemple dans le verset 1, au chef des chantres, sur « Meurs pour le Fils », peut-être c'est une mélodie ou une manière de jouer que David conseille au chef des chantres. Donc ces petites indications-là font partie du texte d'origine, c'est pas votre Bible qui les a ajoutées par la suite, c'est dans l'original. Et donc, visiblement, il y avait une réflexion musicale pour mieux chanter. Nous avons dans ce verset, dans ce psaume, plusieurs indications. Le verset 17, vous avez vu ça, « L'Éternel se montre juste, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains, jeu d'instrument, pause, c'est là ». Combien de temps dure la pause à l'époque? Combien de soupirs? Je ne sais pas. Quel était le jeu d'instrument? Je ne sais pas. Nous avons eu tout à l'heure une interlude musicale. Peut-être c'est un peu comme ça. Verset 21, vous retrouvez la pause, le fameux c'est là qui se trouve dans les psaumes. Donc il y a ces indications musicales. Mais nous n'avons pas les mélodies. Dieu nous a donné les paroles, il ne nous a pas donné les partitions. Le livre des psaumes, il n'y a pas de partition. Certains ont essayé de chercher des indications, mais on a rien. Et par là, je déduis que justement Dieu nous a donné les paroles et pas les partitions. Ça veut dire que la musique peut varier. Il veut qu'on chante des psaumes, mais il ne nous a pas donné les partitions. Donc il nous laisse, nous, inventer, composer la musique. Et pour que ça passe dans tous les styles, dans toutes les cultures, il y a une certaine liberté que Dieu donne à l'Église, toujours en respectant le reste, tous les autres principes de sa parole, avec la sagesse et le discernement qu'il donne, et les dons musicaux qu'il peut donner. Mais à nous de composer parfois, ou d'apprécier le côté musical. Après, il y a le côté poétique, qui est pas toujours facile à réussir. Déjà, c'est difficile à écrire un poème si vous avez dû faire ça à l'école. Traduire un poème, c'est pas évident. La poésie hébraïque ne se repose pas principalement sur des rimes et des vers, comme en français, par exemple, mais il y a d'autres aspects. Et notamment ce psaume montre bien, le psaume 9 et 10 ensemble, c'est un acrostiche. Et chaque strophe commence avec les différentes lettres de l'alphabet hébraïque. Et si vous connaissez l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres. Mais ceux qui ont étudié ce psaume, ils ont constaté qu'il n'y a que 15 strophes, il n'y a que 15 lettres représentées. Et ça fait réfléchir pourquoi il y a 15 et pas 22. Et là, les commentaires diront, même c'est intéressant, il y a un effet poétique, parce que là où les lettres manquent, c'est notamment lorsqu'il s'étend un peu sur la description du méchant. Hein, ce psaume parle du méchant, de l'injuste. Et lorsqu'il s'étend un peu sur les actions du méchant, il manque les lettres. Comme si, c'est vrai que le méchant, il perturbe notre monde, il perturbe notre bien-être. De la même manière, la poésie est perturbée par le manque de lettres. Donc vous voyez, ces choses, c'est une poésie assez fine, assez recherchée. Visiblement, c'était réfléchi par David et cogité pour qu'il puisse écrire un tel poème. Et ça aussi, à nous de, ça fait partie de la musique et de la richesse. La poésie permet peut-être pas justement la tête, mais tout l'âme et le cœur de s'impliquer et de pouvoir louer Dieu au mieux. Donc si on met ça ensemble, cette recherche d'une qualité musicale et la recherche d'une qualité poétique, ça peut inspirer et pousser l'Église vers l'avant. Par exemple, moi, j'aurais tendance à préférer parfois les mélodies plutôt récentes ou de ma génération. En tout cas, mes enfants disent souvent, après un culte, si les chants étaient bien ou pas, selon leur conception de ce qui est bien. Mais il faut dire qu'au niveau poétique, nos anciens sont imbattables. Et c'est pour ça qu'ici, nous avons l'habitude de mélanger un peu vieux et nouveau pour qu'il y ait toute la richesse et musicale et poétique. Alors, surtout, ne pas jeter les anciens recueils. Gardez-les. Il y a des trésors, il y a des richesses là-dedans que nous voulons encore chanter et apprendre. Juste quelques exemples des quelques strophes que moi j'aime et qu'on chante de temps en temps ici. Il y a « Où trouver une retraite ?» Peut-être vous connaissez ce cantique. Voilà deux strophes. Deuxième strophe. « Quand il faudra rendre compte au Dieu qui t'affrontera, où cacherai-je ma honte quand ton œil me sondera ?» Et puis Dieu répond, Jésus répond, « Si tu veux fuir ma colère, cache-toi dans mon amour, approche-toi du calvaire et ne crains plus le grand jour. » Ce sont des belles paroles. Ou bien, « De quoi t'alarmes-tu mon cœur ?» Encore dans les ailes de la foi. Deuxième strophe, « Viens contempler le firmament, dis si ton œil embrasse les mondes que le Tout-Puissant a semés dans l'espace. Ni ton savoir, ni ton pouvoir ne te rendra capable de faire un grain de sable. Connais le Dieu de l'univers et ton insuffisance. Il a mille moyens divers, tout prêt pour ta défense. Et dans ses bras, tu ne perds pas, au fort de la tempête, un cheveu de ta tête. » Voilà, ça, c'est beau, il faut pas les perdre, cela. Donc, côté musical, côté poétique, qui peut encore inspirer l'Église aujourd'hui, mais là où les psaumes sont une source et un modèle d'hymnologie, c'est toute leur richesse théologique, leur contenu varié, mais très riche, et qui véhicule les vérités de Dieu. Et c'est ça, c'est la raison principale que nous chantons les cantiques, c'est pour que la parole de Dieu demeure en nous dans toute sa richesse. Et justement, la réforme, c'était un retour à la Bible. Nous célébrons les 500 ans de la réforme cette année. Et un grand héritage que nous avons de la réforme, c'est déjà au niveau de la musique. Ils ont rendu la musique à l'assemblée. C'était plus l'affaire d'un chœur ou d'une chorale, mais c'était toute l'assemblée qui était impliquée dans le chant. Et ça faisait partie du culte. C'est le corps de Jésus-Christ réuni, chanté ensemble. Et donc, ils traduisaient les chants pour que le peuple puisse chanter ensemble. Et Puisque c'était un retour de la Bible, il y a, qu'il y avait beaucoup de toutes ces traditions qui se sont greffées, qui n'étaient pas forcément bibliques, vraiment, ce souci de revenir à la Bible, ils ont dit, certains des dirigeants de la Réforme, il faut que surtout on chante la Bible, et on chante que la Bible. Donc, dans les premières églises de la Réforme, les seuls cantiques étaient les psaumes. Calvin en traduisait, Martin Luther aussi en traduisait, et donc beaucoup chantaient principalement des psaumes dans les églises. Mais l'avantage de ça, c'est que l'église protestante qui se réformait, qui est en train de quitter un peu les habitudes de l'église catholique, rapidement l'église, les gens, les chrétiens, ont pu s'enraciner et maturer dans la foi parce que voilà, toute leur musique, tout leur chant était purement biblique. Et déjà, rien que dans les 150 psaumes, vous avez beaucoup de doctrines, beaucoup d'annonces du salut et le recours que nous pouvons avoir en Dieu. Et ça a permis à l'Église de faire face à pas mal de persécutions et de questionnements. Mais ils avaient les psaumes, ils connaissaient. Donc, imaginons la richesse de connaître les psaumes, les 150 psaumes par cœur. C'est vrai que nous, on a beaucoup plus de cantiques que ça, mais déjà avec les 150, vous avez un trésor immense dans la richesse théologique. Je dois faire une petite confession ce matin. J'avoue que de temps en temps, il m'arrive d'ajouter des strophes, de modifier des strophes. Peut-être vous les reconnaissez, parce que la poésie n'est peut-être pas parfaite, mais pour peut-être mettre plus de contenu biblique ou de rappeler toute la richesse que nous avons dans la Bible. Voilà, ça fait partie peut-être d'un travail pastoral et musical de continuer à véhiculer cette richesse que nous avons dans la Bible et de le chanter. Et dans les psaumes, si vous regardez bien, c'est pas juste des louanges vagues. Chaque psaume a un sujet ou une circonstance souvent spécifique qui permet une grande richesse, une grande variété de chants et de vérités. Il y a même des sujets surprenants qu'on n'a pas l'habitude peut-être de trouver dans nos recueils de cantiques. Globalement, c'est sûr qu'on veut louer Dieu pour son salut, on veut s'approcher de lui. Mais vous avez par exemple le psaume 112 qui était lu ce matin. Le psaume 112, c'est en particulier le portrait d'un homme généreux qui donne aux pauvres. Ce psaume m'a beaucoup inspiré en réfléchissant aux obsèques de mon grand-père qui avait vécu une vie de générosité envers les pauvres. Et Dieu lui avait béni avec des moyens, mais constamment en train de donner et de partager ses moyens. Et Paul cite le psaume 112 en particulier lorsqu'il veut encourager l'église de Corinthe à une offrande missionnaire. Donc il y a ce portrait d'un homme que Sylvain a décrit, cet homme qui se confie en Dieu, qui est juste, qui vit dans la vérité. Et puis ça déborde dans une vie de générosité envers les pauvres, un homme qui prête, un homme qui donne, ça c'est le psaume, qui fait des largesses, ça c'est le psaume 112. Alors voilà, on chante, Israël en tout cas chantait la générosité envers les pauvres. Ou je reviens surtout à psaume 9. Le psaume 9, quel est le thème principal du psaume 9? C'est ce rappel que Dieu est un juste juge, alors que souvent nous vivons des situations d'injustice. Le système humain de justice est parfois corrompu ou défaillant. Et donc, ce psaume célèbre que Dieu est le juste juge et qui va prendre notre cause en main, défendre le faible. Comme vous savez, dans beaucoup de pays, dans le monde encore aujourd'hui, il est impossible d'avoir accès à une justice juste. Même d'obtenir une audience auprès d'un juge qui va examiner le cas avec équité, une justice qui cherche quand même à protéger le faible. On est privilégié en France d'avoir des droits, mais même en France, on peut vivre souvent des situations qui sont injustes, que ce soit au travail ou dans notre entourage. On est conscient qu'il existe encore l'exploitation des pauvres, le trafic humain. Alors ça aussi, ce sont des sujets de cantique, comme on trouve dans le psaume 9. Mais la réalité précieuse pour le chrétien, c'est que Dieu voit tout ça. Il néglige pas d'être juste, il n'oublie rien et un jour il fera justice pour nous. Et ce qui est beau, c'est que Paul, l'apôtre Paul, il cite ce psaume, beaucoup pensent qu'en 2 Timothée, il cite le verset 5, il dit « Je remets ma vie, ma cause, entre les mains du juste juge », c'est l'expression qu'on trouve dans le psaume 9, alors qu'il attend son procès devant César, où lui, il va certainement pas avoir il va être exécuté, il va pas avoir droit à la justice humaine. pour son témoignage envers Jésus-Christ, mais il dit, moi j'attends, je sais que j'ai déjà le verdict auprès du juste juge Dieu. Donc ce psaume, le psaume 9, va soutenir Paul en prison et face à un système injuste, un système légal injuste. Voilà ce qu'il connaissait, il savait grâce au psaume 9. Donc vous voyez, il y a des vastes sujets, il y a une diversité. Si vous regardez l'ensemble des psaumes, on chante toutes sortes de choses. Et cette richesse-là, on veut le retrouver dans notre hymnologie, dans ce que nous chantons en tant qu'Église. Donc c'est un modèle d'hymnologie. Ensuite, j'aimerais voir que c'est un manuel de psychologie et de spiritualité pour l'individu. Donc c'est un modèle pour l'Église dans ses chants, mais c'est aussi un manuel de psychologie. C'est-à-dire, les psaumes parlent souvent de l'âme et du cœur humain et de l'expérience et du vécu humain. Et on trouve dans les psaumes toute la gamme des émotions et des états d'âme que peuvent connaître l'être humain. La joie, la crainte, l'angoisse, la peur, la confusion. Et la manière souvent que tout ça joue sur le physique, le corps, qui peut être mal en point à cause d'une situation émotionnelle. On trouve dans les psaumes toutes sortes de circonstances où on va pouvoir prier ou chanter Dieu. Des fois, c'est la joie devant un beau paysage, la nature. Donc, on trouve la mer, la montagne qui sont mises en honneur et l'œuvre de la création de Dieu. Mais aussi des situations de détresse terrible, d'injustice, comme nous voyons, d'angoisse. Et je pense que le livre des psaumes, c'est Dieu qui se lance dans le cœur d'âme, dans la relation d'aide, en nous donnant un langage pour expliquer, pour exprimer toutes les complexités de notre intérieur, tout notre vécu, qui n'est pas toujours simple à comprendre, à exprimer, à soigner. Mais les psaumes, c'est la preuve que Dieu, il accueille, il comprend, il invite ces cris parfois troublants, ce cri de cœur qui ne comprend pas tout. Dans les psaumes, on trouve presque des reproches à Dieu et ça nous étonne. Par exemple, si on poursuit dans le psaume 10 commence avec cette phrase. « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» Sur le plan purement théologique, c'est presque hérétique de dire ça. Dieu est partout. C'est ce que nous affirmons dans nos confessions de foi. Dieu est partout. Il n'est pas loin. Il n'est pas éloigné. Mais Dieu, ce cri, cette expérience, nous l'avons tous connue. Nous avons tous vécu ce sentiment que Dieu est loin, qu'il ne répond pas à nos prières, qu'il n'est pas là, qu'il est éloigné. Et ça, Dieu, il agrée de telles prières, il les accueille, il les comprend. Vous savez, dans la pensée de beaucoup de personnes, il y a la Bible, la vie d'église, il y a les doctrines chrétiennes, et puis à côté de ça, il y a la vraie vie, la réalité, avec ses soucis, ses problèmes, parfois graves. Et parfois, ces deux mondes ne se rencontrent pas, quoi. Le monde de dimanche matin au culte, et puis le monde de tous les jours, la vie d'église, et puis la vie, la vraie vie. On a malheureusement peut-être séparé les choses, mais les psaumes ne nous permettent pas de dire qu'il n'y a aucun lien. Dans les psaumes, nous trouvons justement toute l'expression, tout le vécu qu'on peut connaître. Le roi David, dans beaucoup de ses psaumes, il est en train d'être persécuté, pourchassé, plusieurs tentatives contre sa vie par le roi Saül. Et c'est dans ces grands moments d'angoisse et de problèmes qu'il va exprimer son vécu et son attachement à Dieu. Il y a un auteur chrétien qui s'appelle David Paulussen. C'est un psychologue aussi et il fournit en ce moment beaucoup de ressources pour la relation d'aide chrétienne. Mais si vous regardez son ministère, il est constamment en train de conseiller, de commenter les psaumes. Il est assez fort. Mais il prend un psaume et il l'applique à une situation réelle, vécue. Et quand on voit ça, on voit à quel point c'est pertinent le psaume, que nous-mêmes nous puissions adopter ce langage, ce vocabulaire pour traverser une situation difficile, une épreuve et s'accrocher à Dieu. Vous savez, on peut prendre le cas, il prend le cas par exemple d'un victime d'abus. Il y a de terribles abus encore dans ce monde. Victime d'abus sexuels ou autre. Et pour accompagner la personne, il va l'aider à mettre des mots dans sa bouche pour décrire son expérience. Et c'est vrai que, par exemple, le psaume 9 et 10 est très fort. Regardez le verset 10, psaume 10, verset 8, qui décrit, par exemple, le méchant. Verset 8, chapitre 10, « Il se tient en embuscade près des villages, il assassine l'innocent dans les lieux écartés, ses yeux épient le malheureux, il est aux aguets dans sa retraite comme le lion dans sa tanière, il est aux aguets pour surprendre le malheureux, il le surprend, il l'attire dans son filet, il se courbe, il se baisse et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais. » Verset 17, 18. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis le cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. N'avons-nous souvent besoin de cette vérité, de s'accrocher à cette vérité que Dieu est là et qu'un jour l'homme de la terre va cesser d'inspirer l'effroi? Mais le portrait du méchant est pertinent et juste, et ça peut aider une personne qui traverse des moments difficiles à exprimer tous les sentiments de son cœur pour aller vers une restauration, vers une guérison. Bien sûr, il y a d'autres vérités, il y a d'autres aides, il y a d'autres démarches. C'est pas que lis un verset et tout ira bien dans ta vie, mais voilà, apprendre à s'accrocher de Dieu passe souvent par le langage des psaumes. Et c'est là où nous trouvons la santé spirituelle, la santé mentale pour nous. Alors peut-être cet été, vous pouvez adopter une habitude de prier avec un psaume. Peut-être vous vous êtes dit, moi je ne sais pas trop prier, ou je suis jeune chrétien, ou j'aimerais savoir que prier, comment prier. Mais les psaumes, ce sont des prières que Dieu nous donne, vous donne, pour apprendre à prier. Alors il y a des personnes qui prennent par exemple un psaume par jour, vous lisez le psaume et vous essayez de le mettre dans votre vocabulaire, votre expérience, votre langage, et vous le redites à Dieu. Et c'est précieux d'apprendre à prier comme ça. Donc vous voyez, c'est un manuel de psychologie, c'est-à-dire la psychologie qui s'intéresse à l'âme humaine, à la santé de l'âme et notre relation. Et souvent la solution à l'âme humaine, c'est de s'orienter les pensées vers Dieu et d'espérer en lui. Alors c'est pour ça que les psaumes est un bon manuel. Et enfin, j'aimerais terminer avec cette pensée que les psaumes, ce sont les mots et les prières du Messie. Ça aussi, ça va vous aider à comprendre les psaumes et à voir toutes les richesses. Vous savez que le roi David a écrit à peu près la moitié des psaumes. Mais quand on commence à lire les psaumes de David, par exemple, on commence à voir qu'ils ont une portée bien plus loin que David lui-même pouvait vivre dans son expérience. C'est vrai que David a passé une partie de sa vie rejeté, persécuté. Et puis, il a été couronné roi, il est devenu le roi, le représentant d'Israël pour les conduire dans la paix, dans le bien-être. Et ce schéma que David a vécu, c'est le même que le fils de David, Jésus, a vécu dans sa mort et sa résurrection. Il a été rejeté, pourchassé, persécuté, mais ensuite, par sa résurrection, il est devenu le roi qui règne sur son peuple pour les conduire dans la paix. Et après sa résurrection, Jésus a précisé à ses disciples en disant, les psaumes, ça parle de moi en fait. Les psaumes, ça parle de moi. Et vous n'avez qu'à relire le psaume 9 et 10 avec cette optique et vous allez tout de suite trouver Jésus. Jésus, il est le victime d'injustice par excellence qui se remet complètement à la justice de Dieu. C'est par Jésus que Dieu montre qu'il est ce juste juge, mais qu'il aime le malheureux et l'opprimé que nous sommes. Parce que parfois, quand on prie que Dieu fasse justice, c'est un peu difficile pour nous parce que ça pourrait nous toucher aussi. On sait qu'on mérite parfois son jugement. Mais Dieu, c'est tout le message de l'évangile, Dieu peut être un juste juge parce qu'il a puni Jésus-Christ à la croix au lieu de nous punir. Donc il peut nous sauver et être un juste juge. Et ce Jésus qui vit tout ce système légal injuste comme il a vécu lors de son arrestation, de sa crucifixion, mais à tout moment il s'est confié en Dieu. Relisons les versets 14 du chapitre 9. 14, 15, 16. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie ton nom. C'est exactement ce que Jésus a vécu par sa résurrection. Et lorsque les autres, lorsqu'ils ont signé l'arrêt de mort de Jésus, lorsqu'ils l'ont mis en croix, ils pensaient faire triompher l'injustice, la fierté, l'orgueil humain, le moi. Mais en réalité, c'est la croix qui signe l'arrêt de mort de toutes ces choses. Et nous savons depuis la croix que la justice va triompher, la vie, l'amour, la paix va triompher, et pas l'injustice et la corruption. Donc, les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont faite. Cette fosse, c'était la croix. Et en mettant Jésus-Christ en croix, en fait, ils n'ont fait que glorifier et Dieu et permettre la plus grande victoire de s'accomplir. Donc, vous voyez, beaucoup de passages dans les psaumes vont devenir plus clairs, plus riches pour vous, si vous les entendez comme dans la bouche de Jésus, en tant que ce Messie, en tant que ce roi. Il y a des versets qui disent « Je les taille en pièces, les nations ». Alors, c'est un peu difficile de s'appliquer personnellement. Ce n'est pas à nous de tailler en pièces les nations, mais Jésus, le juge, le roi qui règne et qui a droit sur toutes les nations, il va revenir et faire justice. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle, de penser que ces psaumes, c'est aussi les prières et les pensées et les mots de Jésus lui-même. Parce que des fois, on lit les psaumes et on dit, « Oh là là, moi, je ne pourrais jamais prier comme ça dans ma situation. » J'ai pas ce niveau de maturité spirituelle qui se remet complètement à Dieu, qui loue Dieu malgré les circonstances autour de moi. Moi, je n'arrive pas à le glorifier dans cette situation. La bonne nouvelle, c'est que Jésus l'a fait. Jésus l'a fait, il a parfaitement incarné l'esprit et le but des psaumes, c'est de louer Dieu en toutes circonstances. Et c'est parce que Jésus a fait, c'est parce que Jésus a prié parfaitement, c'est parce que Jésus a loué parfaitement qu'il peut nous sauver et qu'il prend notre place. Et le fait que lui, il a toujours loué Dieu parfaitement, maintenant il peut nous entraîner dans une louange qui plaît à Dieu. Donc encore là, Jésus nous sauve, parce que pour des fois où nous n'avons pas à prier correctement, à prier convenablement, il nous porte, il l'a fait. Il l'a fait quand nous n'avons pas réussi à la faire. Et c'est lui qui nous sauve. Alors voilà un aperçu des psaumes, ce modèle d'hymnologie, ce manuel de psychologie et ces mots du Messie. J'espère que ça vous donne une nouvelle appréciation, en tout cas une plus grande appréciation pour ce riche recueil de cantiques. Et pendant tout cet été, je vous encourage vous-même à méditer, à lire les psaumes, à les chanter. Nous allons essayer de faire ça en tant qu'Église pour que ces vérités puissent s'imprégner en nous, et ainsi nous pouvons glorifier Dieu et louer Dieu avec les mots que lui-même nous a fournis. Je vous invite à prier pour terminer.